La radio diffuse la poésie des poètes.
Poème.
La radio diffuse la poésie. Mais la poésie.
Poème. Poème. Poème.
Poème.
Poème. Poème.
Je me sens que la poésie.
Poème. Poème.
Poème.
Il y aurait comme une sorte d'afflux.
Poème.
Poème.
Toutes ces voix écrites qui viennent parler, témoigner.
Poème.
C'est la poésie. La poésie. La poésie. La poésie.
Lors d'une soirée le 2 février dernier, Poésie à l'écoute est allée enregistrer Jacques Darras, poète français, à l'occasion de son recueil de poésie « Irruption de la Manche » paru aux éditions du CRI. Lors de cette rencontre, le poète a parlé de poésie, mais aussi et surtout de son rapport avec les sciences, les mathématiques, l'histoire, l'archéologie et le temps. Tout un programme donc, je vous souhaite une bonne écoute.
J'avais choisi comme titre d'abord et puis je l'ai barré, je l'ai effacé. Je me suis dit, non, c'est un titre qui correspond trop au climat et à l'humeur contemporaine. J'avais choisi l'effondrement de la Manche. Je me suis dit, non, mais parler d'effondrement alors que tout le monde est déjà dans un état de déliquescence avancée, quoi. Il ne faut pas en jeter trop, quoi. Il ne faut pas en faire trop. Et donc, j'ai ensuite passé à l'irruption de la Manche. Pourquoi ? Parce que, en deux mots ou en trois, une grande partie de mon existence a été vouée à l'Angleterre, à la littérature anglaise. Et ça a été une conversion absolument redoutable, quoi. Ça a été un changement extraordinaire dans ma vie et dans ma sensibilité. Et donc, ma vie, ensuite, à partir de là, à partir de 25 ans jusqu'à ma retraite, 65 ans, donc pendant 40 ans, ma vie a été rythmée, a été confisqué, a été irrigué par la littérature anglaise. Et toute la littérature anglaise, depuis le Moyen-Âge, qui est très rarement abordée, c'est le fameux poème de Beowulf, écrit en vieil anglais, en anglo-saxon, vieil anglo-saxon, cette histoire de monstre qui apparaît sur la lande et qui a donné ensuite Tolkien, enfin Spielberg, enfin tout sort de là, quoi. Tout sort de Beowulf. C'est une histoire incroyable, quoi. C'est le début des vampires. Les vampires commencent au 7e siècle après Jésus-Christ. C'est le premier poème anglais. Et je me suis littéralement abîmé dans la poésie, abîmé au sens de plonger, quoi, dans la poésie de langue anglaise qui m'a modelé, qui m'a vraiment travaillé de façon considérable. Et puis, il y a un autre aspect des choses qui m'a requis, ensuite, c'est l'histoire. C'est l'histoire. J'ai d'abord commencé par le travail de l'histoire du nord de la France. Et je me suis très vite rendu compte que le nord de la France était incompréhensible sans la Belgique. Et donc, je me suis voué à l'histoire du nord de la France, de la Belgique, ce qui m'a cantonné au Moyen-Âge, 15e, 14e, 15e, 16e siècle. Et puis, le rapport à l'histoire est un rapport également qui remonte très, très loin chez moi et qui est une sorte de refoulé ou d'inconscient qui est revenu à la surface. Je suis un passionné de préhistoire depuis très, très, très longtemps, mais ça peut s'expliquer. Parent instituteur, formé à l'école normale d'Amiens, qui est un des hauts lieux de la préhistoire, qui est un des hauts lieux de la paléontologie, puisque c'est là qu'on a découvert les premiers outils de la préhistoire qui remontent à moins 500 000 ans. Et donc, très vite, très jeune, mon imagination, chaque fois que j'allais à Amiens, j'enjolive un tout petit peu, mais je me disais, je vais dans une ville qui vient d'être détruite par la guerre, au lendemain de la guerre. Et le premier préhistorien connu est un Abbevillois, est originaire d'Abbeville, donc vous savez qu'Abbeville et Amiens, c'est la Picardie. Donc ce pays-là, la Picardie, est la terre originaire de la préhistoire, de l'archéologie. L'archéologie commence là, ça commence là. Et donc, je suis marqué par cette archéologie depuis le début. À ma maison, on avait des, des outils préhistoriques, quoi. Et d'ailleurs, j'en ai un sur mon bureau aujourd'hui, et tous les jours, je le mets dans ma main, et je ne sais pas ce que j'en fais, parce que je ne sais pas si c'est un outil qui tue, ou si c'est un outil qui gratte, ou qui un outil qui, voilà, qui frappe simplement. Il frappe, en tout cas, c'est un outil. Il est magnifique. C'est un silex jaune qui est taillé de façon grossière et qui a 500 000 ans, moins 500 000 ans, quoi, effectivement. Et donc, si vous voulez, alors le premier grand archéologue écrit en 1864... les antiquités celtiques et antédiluviennes, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas la distinction entre les trouvailles celtiques et les trouvailles paléolithiques. Il s'appelle Jacques Boucher, dit Crèvecœur de Perthes. Il était douanier à Abbeville. Et il est celui qui, après Darwin, c'est 1859, l'origine des espèces, dit en 1864, non pas l'homme à 4000 ans comme la Bible le disait, mais il crève en quelque sorte le décor et il dit, mais non, mais l'homme a des millénaires et des millénaires et des millénaires. Qu'est-ce qu'on fait de la préhistoire quand on n'est pas, historien et quand on n'est pas préhistorien ? Eh bien, si on fait une chose, on a un ami qui est archéologue à Abbeville, il vient de mourir il y a 6 mois à peine, et cet archéologue est le pionnier de... Il y a une continuité donc dans cette terre, hein, entre Jacques Boucher de Perthes, qui invente l'archéologie, et cet homme, je cite son nom, il n'est pas connu, mais du moins pas connu ici, Roger Agache. Agache en picard, c'est un nom très picard. Un agache, ça veut dire une pie. C'est une pie, c'est un oiseau bavard, quoi, un agache. Une agace, quoi, c'est un oiseau agaçant. Et Roger Agache a inventé, vraiment inventé, était le pionnier de l'archéologie aérienne. C'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, il est monté dans des petits avions, des Pipers, et il a découvert que lorsque on partait très tôt le matin, à un moment où il y avait de la rosée, et que l'avion s'inclinait dans un angle particulier. Et pour cela, il fallait un avion à double commande. Et donc, on pouvait photographier au ras du sol et ras des moissons, particulièrement au mois de mai, juin, enfin, à cette époque-là, ou même l'hiver, ils volaient l'hiver également. On pouvait photographier les structures des villas gallo-romaines et des fermes gauloises qui apparaissaient de la terre. De sorte que il a fait un livre, il a fait une somme absolument extraordinaire de 4 volumes, et il a montré que la Picardie était couverte d'ombre qui était rectangulaire, qui était circulaire et qui remontait à moins 2000, moins 3000, moins 4000 ans, enfin quasiment cela. Et donc, alors j'ai volé avec lui. J'ai volé avec lui, il m'a pris dans son avion. C'était un fou. C'était un fou instituteur, pour commencer aussi, donc lien avec ma famille d'instituteur. Un fou qui s'était vraiment passionné pour l'archéologie, pour la préhistoire. Et alors, quand on montait dans le petit Piper, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà montés dans un avion comme ça, mais c'est léger, quoi. C'est une plume, et donc le vent l'emporte, comme ça. Et d'un seul coup, il disait « Ouais, ouais, là, là, là !» Et il basculait, il prenait la commande de l'avion, il basculait l'avion à 45 degrés, comme ça, et le pilote gardait son sang-froid, quoi, à côté de lui, et il tournait autour des champs, et il disait « Vous voyez, là, l'ombre de la villa gallo-romaine ?» Et donc, j'ai l'histoire... vu d'en haut, vu de l'air, vu du ciel, et ça m'a littéralement bouleversé, quoi. Ça m'a vraiment bouleversé. Et donc, ça a nourri ma réflexion sur le temps. Nous sommes tous concernés par le temps. Thank you. Il y a très peu de choses finalement sur le temps, paradoxalement, très peu d'études. Finalement, je pense que la poésie, encore plus que la musique, est un art du temps. C'est l'art qui est le plus proche du temps, me semble-t-il. La musique étant quand même portée vers l'harmonie, et musique classique bien entendu, et donc par conséquent pacifiant le temps, la poésie étant beaucoup plus lucide sur ce qu'est le temps. Et donc je me dis, mais nous vivons dans un univers, notre univers contemporain, où les philosophes parlent très peu du temps. Depuis Saint-Augustin jusqu'à Hegel et jusqu'à Heidegger, il y a très peu de philosophes qui ont abordé la question du temps. J'ai repris avec moi les Confessions de Saint-Augustin et le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, et cette phrase que je citais de travers, je l'ai retrouvée telle quelle. « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. » Et donc, c'est souvent le point de départ de toutes les réflexions philosophiques sur le temps, d'ailleurs. Et je me dis, mais nous vivons au XXIe siècle avec une sorte d'accélération, non pas du temps, mais des dimensions temporelles qui fait que nous habitons un grain de sable et que ce grain de sable, il est perdu d'un univers en expansion. C'est tout récent, la théorie de l'expansion du Big Bang. C'est un Belge, d'ailleurs, qui l'a mis la première. C'est le chanoine Lemaître qui a conceptualisé la notion d'expansion de l'univers. Ça a été repris ensuite par un Américain, Hubble, qui a donné son nom au radiotélescope, enfin au radio, qui est la sonde radio, en quelque sorte, qui est partie en l'air. Et je me dis, mais c'est absolument invraisemblable. Nous sommes dans la croisée d'une expansion de l'univers. On mesure en années-lumière. On sait que l'univers fait 156 milliards d'années-lumière de dimension approximative, on pense, on croit, effectivement. Donc, cette Terre, cette création ex nihilo, semble-t-il, grande discussion naturellement entre les physiciens et les philosophes, cette création de l'univers 15 milliards d'années, l'apparition de l'homme sur Terre 3 millions d'années, du langage 1 500 000, 2 millions d'années, et puis cet univers galactique, absolument, ces milliards de milliards de milliards de soleils qui sont autour de nous. Et puis là, nous sommes assurés, quoi. Nous sommes très, très sûrs de nous. Nous parlons d'économie, certes, c'est très important, bien entendu. De société, c'est très important, bien entendu. Mais je veux dire, est-ce que nous sommes complètement démunis pour appréhender cela avec l'imagination? Il n'y a que la conceptualisation qui peut se permettre, conceptualisation mathématique qui nourrit l'astrophysique et qui permet justement donc d'aller, de naviguer dans cet univers. Mais l'imagination, notre imagination est restée sur Terre, notre imagination est prisonnière, elle n'a pas franchi le saut, elle n'a pas fait le saut qualitatif, et comment le pourrait-elle d'ailleurs, qu'il permet justement de nous envisager d'en haut, ou d'en haut de millions d'années, ou d'en haut de milliards de galaxies. Nous sommes prisonniers de notre petite prison platonicienne, notre caverne en quelque sorte, et nous ne sortons pas au soleil ni à la lumière, et pour cause, effectivement. Et nous sommes dans un monde, alors, ayant essayé de comprendre, ayant essayé de domestiquer, d'apprivoiser la notion d'espace-temps, la notion de relativité restreinte et de relativité générale d'Einstein, j'ai, à ma façon à moi, je comprends que nous habitons des univers qui sont des univers à vitesse de lumière, donc à temps, à gravité différents. Et donc j'ai, à ma manière à moi, étudier l'ombre archéologique de moi-même dans le temps. Voilà. C'est pourquoi je suis si souvent en avion dans ce livre. Je suis en avion parce que je prends des hauteurs différentes vis-à-vis de mon petit grain de sable, et je me dis que je dois faire une belle ombre, enfin une ombre. Voilà, comme nous tous, nous sommes tous des ombres en puissance. Et donc, vue d'une archéologie céleste. Et cette archéologie céleste, c'est la poésie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour, comment dire, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'aborder? Qu'est-ce qu'on fait avec le vers? À mon sens, on ne peut l'aborder qu'avec le vers. Parce que le vers, en réfléchissant, c'est la mesure de la parole. Et c'est une mesure, le vers. Et si vraiment il reste quelque chose à dire sur le vers, et qui est important à dire sur le vers, c'est que le vers est une mesure. C'est une unité de mesure, et comme telle, proche de la mesure de l'univers que les mathématiques nous donnent. Donc la poésie est finalement assez proche de la mathématique, à sa façon, à elle. Il y a des points communs, il y a des choses communes entre les deux. Et donc, j'ai utilisé des vers de mesures différentes. De sorte que quelqu'un qui voudrait, en ouvrant mon livre, trouver un poète, non pas uniforme, mais en quelque sorte monoforme, est déçu, gêné, et n'est pas à l'aise parce qu'il y voit des vitesses différentes. Il y voit des vitesses différentes, mais comme nous habitons des univers différents. S'il y a donc une réalité dans ce que nous dit la physique contemporaine, la physique moderne, c'est que nous habitons des vitesses différentes, nous habitons des temps, des histoires différentes. Et donc, j'ai essayé de tenir ensemble des sphères. Je suis plusieurs sphères à moi tout seul, et je me pluralise en quelque sorte dans l'écriture. Alors, je suis parti de l'Angleterre, de l'anglais. Les Anglais, depuis quelque temps, sont absolument passionnés, fascinés par le fait que la Manche est une création géologique, récente. Il y a 10 000 ans, à l'époque de la dernière glaciation, dans l'époque dite pléistocène, l'Angleterre était couverte de glace. Ça aussi, c'est très chouette pour l'imagination, pour la science-fiction, enfin, ainsi de suite. On imagine donc Londres complètement couverte de glace, l'âge de glace. Et à l'issue de cette glaciation, arrive une post-glaciation, c'est-à-dire un réchauffement. Et ce réchauffement, très identique d'une certaine façon à celui qui nous menace, qui est en train de nous menacer, d'où l'intérêt également du parallèle, ce réchauffement a pour effet de faire fondre la banquise. A pour effet de faire fondre la glace, de faire fondre la banquise, et sur une échelle de temps que l'on ne connaît pas très bien, sans doute 1000, 2000 ans, 3000 ans, la banquise fond, et des masses d'eau, de véritables tsunamis, envahissent donc une région qui unit le continent à ce qui est aujourd'hui l'île d'Angleterre. Cela doit se passer vers 6000 ans à peu près. On pense que vers 6000 ans à peu près, d'un seul coup. Alors, est-ce que l'eau est montée progressivement? Est-ce que l'eau est venue tout d'un coup? On croit savoir qu'il y a eu un tsunami terrible qui s'appelle un Storega en norvégien. Et donc, un grand bout de banquise qui s'est décroché de la Norvège et qui a... Et comment les Anglais ont-ils eu connaissance de cela? Eh bien, parce que les pêcheurs anglais et les pêcheurs hollandais retrouvaient dans leur filet, depuis 50 ans à peu près, des cailloux taillés, comme celui que j'ai sur mon bureau et que je tiens dans la main, et qui fait qu'en vérité, la Manche a été une terre néolithique, paléolithique, avant d'être submergée par l'eau. Donc, Chaque fois que je vais au Cap Blanc-Nez, qui est un des points les plus beaux de toute la côte du Nord, qui est un panorama absolument extraordinaire, que le ciel est bleu, que les falaises de Cray en face, celles de Douvres, sont blanches, comme avec du dentifrice, j'ai vraiment l'impression de... Je pense à cette Manche engloutie, cette Atlantide engloutie, et que les Anglais ont baptisé du nom d'un banc de sable qu'on entend à la radio, ceux d'entre vous qui écoutent sur les ondes courtes les bulletins météorologiques concernant la navigation, et qui s'appelle Dogger Bank, et qui est un banc de sable, un haut fond, qu'il faut éviter pour la navigation. Et ils ont appelé cette terre submergée qui reliait autrefois les continents à l'Angleterre, à l'île, avant que l'Angleterre ne soit une île, ils l'ont appelée Dogger Land. Et il existe une unité de géologues à Birmingham, à l'université de Birmingham, aujourd'hui, qui est en train de faire la carte du fond, la cartographie du fond de la Manche. Tous ces phénomènes expliquent l'irruption de la Manche. Alors, j'ai été brassé beaucoup de choses, l'irruption de la Manche, et tous mes textes font irruption les uns dans les autres. Chaque vers est une strie géologique, est une couche géologique. Et donc, il y a de la géologie dans le vers, il y a de la mathématique, il y a de la géologie, il y a de la science dans la poésie. Je ne peux pas concevoir une poésie qui ne soit pas, d'une certaine façon, une exploration scientifique. Et alors, ça paraît un peu glaçant, comme ça, surtout si je parle de glaciation. Mais et cependant, je crois que là où nous sommes, nous sommes dans une exploration du temps. Chaque poème est une sonde. Chaque poème est un coup de sonde dans la matière, à la fois verbale, historique et prosodique. Et donc, je descends, ou je monte, c'est selon, et cela me donne une certaine forme de sagesse. Je suis dans ce livre, pour la première fois peut-être, allé vers une forme d'équanimité, d'équilibre précaire, mais d'équilibre de sagesse. Ce n'est plus une quête effréné et infini, c'est beaucoup plus le sens que l'on peut se tenir sur un plan long et sur un temps long, tout en ayant conscience de toutes les couches qui sont au-dessus et les couches qui sont en dessous.